Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant « Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises ». Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa, là il trouve un bateau qui part pour Tarsis, il paye son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent, et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur, chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau, il s'est couché et dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit « Quoi ? Tu dors ? Mais lève-toi, crie vers ton Dieu ! Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas !» Puis les marins se disent entre eux « Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort !» Il tire au sort et le sort tombe sur Jonas. Alors les marins lui disent « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple es-tu » Jonas répond « Je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et la terre. » Puis il leur raconte son histoire. Les marins ont très peur. Ils disent à Jonas « Qu'est-ce que tu as fait là ?» En effet, maintenant ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur. Ils lui demandent « Qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» En effet, les vagues montent de plus en plus. Jonas répond au marin « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, ainsi la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. » Les marins rament pour rejoindre la côte. Mais ils n'y arrivent pas, les vagues montent de plus en plus contre eux. Ils prient le Seigneur et disent « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prennent Jonas et ils le jettent à la mer. Alors la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et ils lui font des promesses avec serment. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur, son Dieu. Il dit « Je suis très malheureux. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou. La mer m'entoure. Des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts, et les portes sont fermées à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur, mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi, dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors, Seigneur, donne cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre. » Et aussitôt, le poisson obéit. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas « « Debout, va à Ninive, la grande ville. Annonce-lui le message que je te donne. » Alors Jonas se lève, il part. Mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville, Il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis, le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Le Seigneur répond à Jonas. « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère ?» Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessous à l'ombre. Il veut voir ce qui va se passer dans la ville. Alors, le Seigneur Dieu fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un ver. Le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas. Il va bientôt s'évanouir. Alors il souhaite la mort et dit « Je préfère la mort à la vie. » Dieu demande à Jonas « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante ?» Jonas répond « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante, pourtant elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'a fait pousser. En une nuit, elle a grandi, en une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive ?»
Je vais vous lire un passage dans 1 Timothée 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je vais prier pour Vili, qui va nous apporter le message ce matin, et pour nous aussi. Seigneur, je veux te remercier pour Vili, que tu as choisi pour nous transmettre ton message ce matin. Seigneur, je veux le bénir en ton nom. Que ton esprit le remplit pour qu'il soit source de bénédiction pour nous ce matin. Et Seigneur, je te demande pour chacun de nous que tu ôtes toute voile qui nous empêche de voir ce que tu as à nous montrer ce matin. Que tu ôtes toute voile qui nous empêche d'entendre le message que tu as pour nous. Seigneur, merci et sois glorifié par ce temps que nous avons avec toi. Amen.
Alors bonjour à tous. Ça fait un énorme plaisir d'être ici avec vous ce matin. Et c'est avec autant de joie que nous accueillons à Roger, votre pasteur de notre côté. Alors c'est vraiment bien. C'est une bonne idée de faire ces échanges. Voilà, donc c'est super. Alors Jonas, quel caractère alors? Ce Jonas, oui, on pourrait juste dire, c'est une histoire pour les enfants. Jolies images, gros poissons, voilà, une histoire à raconter avec pas mal d'événements surprenants. Mais en fait, on en a parlé un peu du côté du Grand Nancy et on a vu qu'il y a plein d'enseignements tirés de ce livre, de ce passage, de cette histoire étonnante. Et en principe, on devrait avoir le temps pour discuter un peu entre nous, pour vous demander, mais qu'est-ce que vous tirez de cette histoire? Quel est l'enseignement que Dieu vous donne à travers ce livre qui est, oui, comme j'ai déjà dit, étonnant? Malheureusement, on n'a pas le temps pour cette discussion, mais on va quand même voir deux, trois choses, si vous êtes d'accord. Alors, ce Jonas, il a reçu une mission. Une mission pas facile du tout. Bon, il faut dire, c'était une mission vraiment difficile. Puisque Ninive, c'était pas la porte à côté. Aujourd'hui, Ninive, c'est Mossoul, une ville qui est mentionnée parfois dans les nouvelles. Il y avait pas mal d'événements à Mossoul, la guerre, la rébellion. C'est un peu au nord de l'Irak, dans la région des Kurdes. Coincé entre la Syrie et l'Iran, donc vraiment un petit coin chaud. Alors, et pour que Jonas puisse y aller, il fallait parcourir près de 800 kilomètres. Alors, s'il avait eu EasyJet, c'était encore une chose, mais voilà, à pied, à dos d'âne ou bien à dos de chameau, je ne sais pas comment il aura voyagé. Alors, c'était toute une expédition de plusieurs semaines. Et ben voilà, donc, c'était pas facile du tout. Un voyage difficile, dur, et vraiment, c'était presque un peu trop demandé. Mais ce n'est pas seulement la distance qui a rendu ce voyage difficile. C'est une mission suicidaire, en quelque sorte. Puisque les Assyriens, c'étaient les pires ennemis, même pas les meilleurs ennemis, les pires ennemis du peuple Israël. C'était ceux-là qui étaient réputés pour être très cruels. Alors, qui ont détruit pas mal de villes du royaume du nord d'Israël, qui ont massacré la population, qui ont violé leurs femmes, leurs filles, qui ont déporté leurs enfants, qui ont exécuté des vieillards et des hommes sans pitié. C'était vraiment une mission suicidaire. Lui, seul, juif, prophète encore, de notre Dieu, aller à Ninive, leur annoncer encore, attention, dans 40 jours, votre ville va être détruite. Alors, c'était impossible. Une mission suicidaire. Déjà dans la Bible, nous lisons plusieurs fois que un porteur, un messager d'une mauvaise nouvelle, il était en général exécuté sur le champ. Alors, Jonas avait peu de chances de survivre cette mission, s'il n'avait pas été accompagné par Dieu, bien sûr. Mais c'était aussi une mission mal vue, puisque voilà, comme j'ai dit, les Assyriens, dont Ninive était la capitale à un certain moment, les Assyriens, c'était les pires ennemis du royaume du nord d'Israël. C'est eux qui ont détruit leur ville, qui ont tué la population, qui ont déporté des gens et qui les ont cruellement exécutés. Et maintenant, Jonas, tu veux aller là, chez ces Assyriens, tout près de ce palais royal. Là, chez ce peuple qui a massacré notre famille, nos enfants, notre population, qui a détruit nos biens, ou plutôt détruit les villages et qui a volé nos biens. Alors Jonas, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible. On ne peut pas alléger les Assyriens même pour leur annoncer l'Évangile. Et c'est fait. Je comprends Jonas qu'il a pris la fuite, n'est-ce pas? Vu tout cela et encore d'autres aspects, alors on peut dire, oui, il avait un peu raison quand même de s'enfuir. Alors, vraiment, c'était impossible. Il ne pouvait pas y aller. Alors, je vais juste le chercher. Parfois, il se cache un peu dans ma Bible. Voilà. Il est là. Et donc, il a choisi de partir, oui, mais de partir dans la mauvaise direction. Donc, Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Donc, désolé Seigneur, à partir de ce soir, je suis en vacances. J'ai choisi spontanément de faire une petite croisière sur la Méditerranée, passer quelques jours au bord de la mer à Tarsis, voilà. Donc, peut-être nous aussi parfois, on aura une excuse comme ça. Alors, quand même, c'était compréhensible, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Notre cher prophète voulait s'enfuir loin de la présence de Dieu. Il s'est mentionné deux fois dans ce seul verset. Et ça, il a quand même appris ça à l'école du dimanche, ou plutôt de l'école du sabbat. Ce qu'on lit au psaume 139, par exemple, qu'on ne peut pas s'enfuir de la présence de Dieu. Ça ne marche pas. Encore une mission impossible. Donc l'une et l'autre étaient une mission impossible. Aller à Ninive, aussi s'enfuir, ça n'allait pas. Donc, c'est vrai, Jonas s'est trompé de tous les côtés. Et encore, il avait quelque chose. Il a quelque chose qui a tracassé Jonas. Mais Seigneur, il a un risque. Il pourrait se convertir, ces gens-là. Alors, ce serait encore terrible. Passer l'éternité avec des Ninivites. Mais ils polluent notre paradis, ça va pas. Ce sont vraiment nos ennemis, n'est-ce pas? Il a bien dit à l'Éternel au chapitre 4. Je l'avais bien dit à l'Éternel quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Donc, c'était aussi une mission risquée dans ce sens-là. Ces Ninivites pourraient se tourner vers Dieu, et Dieu, dans sa bonté, pourrait encore pardonner leur méchanceté. Alors, ça serait terrible, n'est-ce pas? C'est vrai. Parfois, nous, peut-être aussi, on a l'impression que voilà, annoncer l'Évangile, c'est très bien, dans ma famille, avec mes amis, autour de nous, là où je suis à l'aise. Mais annoncer l'Évangile à ceux qui pourraient me faire du mal, qui pourraient se moquer de moi, Ce qui me dérange, même ce voisin qui me dérange chaque nuit, ou le chien aboie chaque nuit. On avait des chiens qui aboyaient cette nuit. Voilà, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit. Donc, annoncer l'évangile à ceux-là, et devant leur porte, ça sent le cannabis. Alors, ou bien ces requérants d'asile, ou bien ces criminels qui remplissent nos prisons. Mais non, ça ne va pas, Seigneur. Il y a encore un risque qu'ils se convertissent et qu'ils changent de vie. Alors, c'était au début de ce mois, on avait un groupe de maisons. On vient de le commencer en ville. C'est un vieux monsieur qui nous a demandé, est-ce que tu pourras pas venir avec ta femme participer à mon groupe de maisons parce que je voudrais inviter. Il habite un immeuble avec plusieurs centaines de personnes, je voudrais inviter, mais tous ceux ou celles que je connais sont des femmes. Alors moi, vieux monsieur, veuve, je ne peux pas accueillir juste des femmes comme ça dans ma maison, il faudrait qu'il y ait un couple qui soit avec moi. Donc, voilà. Alors on a dit oui, on vient. Et ce mois-ci, il n'avait personne. Personne qui est venu. On était quatre croyants. Il y a encore une dame du quartier qui vient aussi, mais qui va à l'église à la rue du Jura, l'église apostolique. Donc, on est un peu déçus. Et on a commencé à prier. Et à peine ouvert la bouche, ding-dong, ça sonne. Il est allé à la porte pour ouvrir, notre ami, et il a fait de grands yeux. Qui arrive? Une femme qui n'attendait jamais à venir dans ce groupe de maison. Alors elle est entrée, elle a dit, « Ah, je sais que je suis la peste de l'immeuble, mais je veux changer. » Alors c'est une dame qui, vraiment c'était la dernière dame qu'on attendait, moi je ne la connaissais pas, mais ceux qui habitaient le quartier. Elle a vu la carte, l'affiche, peut-être elle avait reçu aussi dans sa boîte aux lettres. Mais elle est venue. Elle a dit, je voudrais changer. Alors, on lui a dit, mais voilà, vous êtes à la bonne adresse. Donc, c'était étonnant. Et déjà avant, on avait une femme qui était là, qui a dit, mais depuis que j'ai 17 ans, je ne suis plus entré dans une église, elle a plus de 70 maintenant. Parce qu'à l'époque, on avait chassé son pasteur qu'elle préférait. On l'avait licencié pour une raison ou une autre, je ne sais pas. Mais cela l'a tellement choqué qu'elle n'a plus mis ses pieds dans une église. Une autre, elle est venue. C'était la toute première fois, j'étais au mois de mars, je crois. Elle est venue ivre, parce qu'elle a un problème d'alcool. Mais elle voulait venir. Elle était là, elle a voulu lire tous les passages, mais elle n'a rien compris, elle n'a pas trouvé. Donc, c'était une réunion vraiment dérangée. Après, elle avait un traitement, donc elle n'est plus venue pour un moment. On lui a encore envoyé une carte, qu'on va prier pour elle. Après, elle était même à Bel Air pour un temps. Et, pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, elle est venue. Et c'était encore la seule personne qui était venue. Cette fois-ci, elle était sobre. Et on a eu l'occasion de lui expliquer l'évangile. Et à chacune de ces personnes qui sont venues presque une après l'autre, on a pu expliquer l'évangile d'une façon extraordinaire et étonnante, une ouverture étonnante. Il n'a eu aucune conversion pour le moment, mais des personnes, voilà, qui avaient aucune relation avec l'évangile sont venues parce qu'elles ont envie, c'était toutes des femmes, parce qu'elles avaient envie ou qu'elles ont envie encore à rencontrer Dieu, à apprendre quelque chose. Il y avait encore une autre dame qui est venue avec sa Bible du monde nouveau. Voilà donc les témoins de Jéhovah. Elle aussi, elle a entendu l'évangile. Donc on se dit, c'est magnifique. Quand même, on aime bien annoncer l'évangile. On s'attendait peut-être pas que toutes ces femmes viennent, mais elles avaient envie de venir écouter, entendre l'évangile. Et il y a un risque qu'elles se convertissent. Et tant mieux. Voilà. Donc, juste pour nous encourager à même profiter des occasions que Dieu nous donne et que Dieu peut-être nous demande, où Dieu nous demande d'y aller, d'annoncer, d'ouvrir la bouche, de faire un geste, peut-être d'aider, parce que Dieu, il les aime aussi, comme nous l'avons lu dans 1 Timothée, n'est-ce pas? Il veut que tous les hommes soient sauvés, sans distinction. Donc, aussi, les Ninivites, puisque bien sûr, Jésus va les purifier, va les leur pardonner, comme il l'a fait aussi pour nous. Aucun risque de pollution dans l'éternité. Une deuxième chose qu'on peut voir dans le livre de Jonas, c'est que s'enfuir, c'est fatigant. La première chose que Jonas a fait, c'est aller dormir. Bon, c'est pas seulement fatigant, mais c'est du stress. Pourtant, ça marche si bien. Jonas, il a bien réussi son coup, n'est-ce pas? Il a descendu à Jaffa, il avait juste un bateau qui allait décoller. Et ben voilà, donc il avait l'équipage, il l'a accueilli, il a payé son billet, et ils sont partis. C'était merveilleux, aujourd'hui on dirait pieusement. Mais ben voilà, Dieu a ouvert toutes les portes. Et j'y suis entré, j'ai pris ce chemin-là, mais c'était le faux chemin. Les portes étaient grandes ouvertes, c'est ça, mais ce n'étaient pas les portes que Dieu avait ouvertes. À moins que peut-être Dieu voulait lui enseigner une leçon. Possible, oui. Certainement, oui. Ça roulait comme sur des roulettes, comme on dit. Mais Dieu, il a gardé quelques surprises pour Jonas. Voilà, par exemple, ce que nous lisons dans le psaume 135. Là, nous lisons dans le verset 5, 6, 7 et 8. Non, 6 et 7. Je sais en vérité que l'Éternel est grand et que notre Seigneur surpasse tous les dieux. L'Éternel accomplit tout ce qu'il veut au ciel et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Des confins de la terre, il fait monter les brumes, il lance les éclairs au milieu de la pluie, il fait lever le vent qu'il tenait en réserve. Et justement, Dieu, il tenait en réserve du vent. Nous l'avons vu dans le film. Il avait ce vent, et ce n'était pas seulement un petit vent, c'est un vent qui faisait même peur à l'équipage qui avait l'habitude de naviguer sur la mer Méditerranée. Et de la part de Paul, nous savons qu'il a régulièrement des tempêtes sur cette mer. Donc ce n'était rien d'inhabituel. Mais cette tempête-là, elle était extraordinaire. Cette tempête de Jonas. Mais Dieu n'avait pas seulement réserve du vent, des vagues, il avait son réserve, un poisson capable d'avaler un homme tout entier. Alors, c'est possible, oui, parce que voilà, l'année passée, nous étions en Afrique du Sud et on a vu les baleines. Alors, on pourrait facilement aménager un appartement à 3 pièces dans une baleine. On les a vues juste à côté, donc pas de problème. Mais ben voilà, il a aussi tenu en réserve une plante, un ver qu'il a piqué, et encore beaucoup d'autres choses, voilà, qu'on peut découvrir dans ce livre. On voit que Dieu est vraiment le maître de l'univers, et qu'il fait ce qu'il veut. Mais on sait aussi qu'il fait ce qui est bien, et ça c'est rassurant, n'est-ce pas? Ben voilà, donc on avait tous ces... on a lu toutes ces histoires-là, on a vu tous ces événements, ces épisodes du livre de Jonas. Et on a vu que Dieu, il est vraiment étonnant, qu'il est vraiment, oui, tout puissant et qu'il peut faire ce qu'il veut. Et vraiment, ouais, c'est super de connaître Dieu et de le connaître personnellement. Et donc, après cet orage, après cette tempête, nous retrouvons Jonas dans les ventres de ce poisson. Il avait le temps pour réfléchir, parce que 3 jours et 3 nuits, c'est long. Ça passe vite, mais dans le ventre d'un poisson, c'est très long. j'ai pas fait l'expérience, mais je m'imagine que c'était très très lent, n'est-ce pas? Il avait le temps pour réfléchir, il avait le temps pour réviser aussi des versets bibliques, parce que, voilà, il semble qu'il avait bien fait attention à l'école de sabbat, parce qu'il a pris beaucoup de versets, puisque sa prière au chapitre 2 est pratiquement une prière composée de versets des psaumes qu'il avait apparemment appris par cœur. Alors donc, c'était lent et c'était aussi donc l'occasion pour prendre des engagements, comme il dit à la fin de cette prière. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. Et ensuite, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. Mais s'enfuir, c'est fatigant, c'est du stress, et Jonas, il avait du stress. Bon, déjà, l'équipage avait aussi du stress avec ce Jonas, qui était un rebelle de Dieu. Mais maintenant, Jonas, il était vraiment dans une situation difficile. Et encore, il avait cette leçon sur le ricin. Donc, Jonas avait tourné le dos à Dieu. Il est arrivé à la conclusion que ça ne valait pas la peine de vivre sous des circonstances pareilles. Aujourd'hui, on dirait, Jonas a fait un burn-out. Voilà. Donc, il était là et il accusait Dieu d'être trop bon. Et il dit à deux reprises, voilà ce qu'on lit dans le verset 4, verset 3 du chapitre 4. « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » Deux fois, il demande cela. Donc, Jonas s'est enfui et il est entré d'une étape à l'autre dans une situation difficile. Tant via la mer. Bon, d'abord, il devait se justifier ou expliquer à l'équipage ce qui se passe vraiment. Après, il tombe à la mer, il est avalé par un poisson, il est trois jours et trois nuits dans ce poisson, il est recraché et il est encore au point, c'est rendir en quelque sorte retour à la case départ, n'est-ce pas? Jonas, chapitre 3 encore, même verset pratiquement pareil comme au premier chapitre, Jonas, mets-toi en route, va à Ninive. Et après, un succès apparent, mais une déception pour Jonas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en accord avec le cœur de Dieu. Son cœur et le cœur de Dieu n'étaient pas en accord. Il a lutté contre la volonté de Dieu et cela a amené toute une succession de situations extrêmement difficiles qui l'ont amené au point de mort, voilà où il a souhaité la mort. Il a dit, mais maintenant c'est trop Seigneur. Et quand il avait encore ce ricin qui séchait, alors il a dit, mais maintenant c'est vraiment trop. Je n'en peux plus. Prends-moi la vie, Seigneur. La semaine passée, on avait une pastorale avec un pasteur de l'Afrique. Oui, d'ailleurs, peut-être quelques-uns l'ont vu à Yverdon. Mamadou Kalambiri. Voilà, donc on avait une pastorale avec lui. Et une des choses qu'il nous avait dites, c'est qu'attention, il y a beaucoup de pasteurs qui font beaucoup de choses, énormément de choses même, mais est-ce qu'ils font vraiment les choses qu'il faut? Parce qu'on peut être très actif avec de bonnes choses même dans la vie. Même dans la vie d'une église, on peut faire beaucoup de bonnes choses. Et ces choses peuvent nous fatiguer. On tombe au lit le soir. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est vraiment ça, ce que Dieu nous demande? Ou est-ce qu'on se retrouve dans une situation comme Jonas, où on s'enfuit un peu de ce que Dieu voudrait vraiment qu'on fasse et qu'on fait autre chose à la place? Pas de mauvaises choses, bien sûr, des bonnes choses. Et donc là, on est un peu dans une situation semblable. on peut presque lutter contre la volonté de Dieu en faisant 1000 choses sans vraiment s'occuper de l'essentiel. Et ça peut arriver un peu dans n'importe quelle profession, il ne faut pas être pasteur pour cela, n'est-ce pas? Aussi dans un ministère qu'on a choisi au sein de l'Église, ou même en mission. On avait ça même en mission. Lutter contre la volonté de Dieu, ou marcher, avancer contre la volonté de Dieu, ou à côté de la volonté de Dieu, ça peut être très fatigant. Et ça peut nous amener au stress, au burn-out, à la dépression. Jonas, il a fait l'expérience. Ça peut nous arriver même aujourd'hui encore, qu'on n'a simplement plus envie. Peut-être on ne demande pas carrément la mort, mais on dit, voilà maintenant, j'en ai assez, je ne veux plus, je m'arrête. Ça m'est arrivé une fois. J'étais coordonnateur du groupe missionnaire aux Comores, responsable pour une vingtaine de missionnaires sur les 4 îles comoriennes. À un certain moment, on a tellement fait des choses que j'ai dit, bon, maintenant, je m'arrête. Je ne veux plus. Je m'arrête. Donc, je voudrais que quelqu'un d'autre fasse ce travail. J'avais une fois un médecin. On avait des chirurgiens qui travaillaient dans un hôpital du gouvernement comorien. Et un jour, il est arrivé. Il m'a dit, je suis en train d'aller à l'aéroport. Il a dit, je ne peux plus. Il a tellement travaillé. Et c'était tellement un travail difficile et sans gratitude et tellement d'exigence qu'il a dit, je ne peux plus, je ne fais plus et je pars. Bon, il est quand même, il a dépassé l'aéroport parce qu'il était entre nous deux. Voilà, donc j'étais un peu rassuré. Mais voilà, donc, et il avait aussi sa famille à la maison. Mais on a pu parler, on a pu essayer de trouver des solutions pour qu'il fasse ce qui est bien, ce qui est nécessaire, et qu'il ne dépasse pas ses limites. Ça peut nous arriver aujourd'hui. Voilà, je vois que je dois arriver à la conclusion. Juste encore une chose, et c'est peut-être la chose la plus importante. Tout à la fin de ce livre, Dieu, il nous ouvre son cœur. Il nous ouvre son cœur, il dit au verset 11, bon je lis déjà le verset 10, « Alors l'Éternel lui dit, c'est quand il a demandé la deuxième fois qu'il voudrait plutôt mourir que continuer. Alors l'Éternel lui dit, « Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter les animaux en grand nombre. » Dieu ouvre son cœur. Il a ouvert son cœur à Jonas, mais je crois qu'il a aussi ouvert son cœur aux Juifs. Dieu voulait leur faire comprendre, ces Ninivites, je les aime aussi. Même si ce sont vos ennemis, ceux que vous n'aimez pas, moi je les aime. Et je voudrais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils arrivent à connaître l'évangile, même si c'est l'évangile encore de l'Ancien Testament. Mais moi je les aime aussi. Et là Dieu nous dit aussi à nous. Oui, j'aime ta famille. Je sais que tu voudrais que tes enfants soient sauvés. Nous aussi, on a un enfant qui ne suit pas le Seigneur. J'aime aussi tes amis que toi tu aimes. J'aime aussi tes collègues que tu fréquentes jour après jour. Mais en plus, j'aime aussi justement ce voisin qui dérange. Ou j'aime aussi ce collègue qui a pris ta place que toi tu aurais voulu. Et j'aime aussi ces criminels qui remplissent vos prisons, ou ceux qui traînent partout, qui ne font rien. Dieu les aime tous, et il est, Jésus est mort pour eux aussi. Et je voudrais juste vous lire ce verset extraordinaire de 1 Jean 2 et le verset 2. C'est là où nous lisons « Car Jésus a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le sacrifice de Jésus est valable pour tous. » Et nous avons vu ça aussi dans ce passage qui était affiché tout à l'heure dans 1 Timothée 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, le Sauveur. Voilà des vérités que nous avons lues ce matin. Et donc, ça c'est la priorité de Dieu. Il voudrait que nous aussi nous participions dans cette priorité, que nous participions à partager cet évangile, là où nous voulons, mais aussi parfois là où nous ne voulons pas. Que notre prière soit orientée vers cette vérité qu'il nous révèle ici, vers le cœur de Dieu, qu'il voudrait qu'il soit sauvé. Il voudrait aussi que nos actes participent à ses priorités. Et il voudrait aussi que nos paroles y contribuent. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à avancer en accord, en harmonie avec le cœur de Dieu. Dieu, il nous révèle son cœur ici. Et toi, tu voudrais que je n'aie pas pitié de Ninive, ou bien de Nérin, du Grand Nancy, de Genève, de tous ceux qui vivent, que nous croisons jour après jour. Tu voudrais que je n'ai pas pitié, moi, de tout ce monde, alors que j'ai envoyé le Seigneur Jésus, que je l'ai sacrifié et que son sacrifice était valable pour tous, suffisant pour tous. Et nous allons rappeler cette vérité aussi en partageant la Sainte Cène tout à l'heure. Amen. J'aimerais prier. Seigneur, par le livre de Jonas, tu nous montres beaucoup de vérités. Nous pouvons apprendre des leçons importantes pour notre vie. Et par-dessus tout, tu nous ouvres ton cœur. Et Seigneur, tu peux nous aider à marcher en harmonie avec toi, avec ton cœur, avec tes désirs, avec ce qui est une priorité pour toi. Oui, aide-nous, Seigneur, à faire une priorité ce qui est important pour toi. Parfois, nous mettons des priorités, nous faisons des choses, mais Seigneur, ce n'est pas toujours ce que toi tu voudrais que nous fassions. Et nous demandons, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous aides à faire ce qui te fait plaisir, ce qui est selon ta volonté, ce qui fait avancer ton royaume. Oui, tu nous dis que si nous nous occupons de ton royaume, que tu vas nous faire, que tu vas nous ajouter tout ce qui nous manque. Merci Seigneur, que tu peux accorder nos cœurs avec le tien aujourd'hui.